RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, en direct de Pralou ce soir au terme de la 17e étape du Tour de France, la première étape alpestre. Il s'est passé pas mal de choses, on va vous en parler évidemment avec toute la Dream Team. Première étape des Alpes et première descente très très dangereuse, la descente du col d'Alos qui malheureusement a causé bien du tort à Thibaut Pinot qui semblait filer vers une victoire d'étape française. Il n'en a rien été, la victoire est revenue à un Allemand dont on va vous parler dans un instant. Quant au maillot jaune, il est toujours solidement accroché sur les épaules de Chris Froome. On en parle dans un instant avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Mais avant cela, Martial Fernandez est là pour nous rappeler les principaux titres de l'actualité sportive de ce jour. Salut Martial.
Salut Christophe, bonsoir à tous. On a cru, comme tu le disais, qu'un Français allait pouvoir jouer la gagne dans cette 17e étape du Tour. Thibaut Pinot termine finalement 4e à Pralou à 1:36 du vainqueur du jour, l'Allemand Simon Geschke. Pinot, qui était dans la grande échappée du jour, a chuté dans la descente du col d'Alos, mais a quand même fait plaisir à Marc Madiot, le manager de son équipe, la FDJ.
Moi je suis satisfait parce que il est frais, il a des bonnes jambes. Je pense que contrairement à ce qu'on pourrait supposer ou penser, il a plutôt fait une bonne descente. Il était bien dans le rythme du premier. Après il a le guidon qui se met en travers ou le frein qui se tourne, donc c'est là où il perd le plus de temps dans la deuxième partie de la descente, mais plus sur le problème technique qu'il a sur son vélo à ce moment-là que sur le reste. Et moi ce qui m'a plu c'est la détermination, l'envie et la fraîcheur mentale.
Marc Madiot avec Pierrick Ten, Chris Froome lui tout en contrôle. Le maillot jaune a répondu à toutes les attaques de ses rivaux. Il finit à plus de 7 minutes de Geschke, mais en même temps que le Colombien Nairo Quintana. Et c'était bien l'objectif du Britannique aujourd'hui.
Oui, on avoue, après 50-60 km, que les coureurs sur le classement général, ils ont déjà attaqué là-bas. Coureurs comme Nairo Quintana, Valverde, ils ont attaqué partout aujourd'hui. C'est pas facile. Il faut suivre toutes les attaques, spécialement les attaques de Movistar.
Et ça bouge un peu au classement général. Froome toujours premier avec 3-10 d'avance sur Quintana. Le troisième maintenant, c'est Alejandro Valverde à 4-0-9. TJ Van Garderen, malade, a abandonné en cours d'étape. Et Alberto Contador a cédé plus de 2 minutes après une chute en descente. Le premier français, c'est toujours Warren Barguil, 10e à 13 minutes de Froome. Demain, 18e étape, encore de la montagne. Gap Saint-Jean de Maurienne, 186 km 500. Le PSG accélère sur le dossier Angel Di Maria. C'est une information RMC Sport. Paris a fait une offre concrète à Manchester United et propose 65 millions pour le transfert du joueur argentin Camille Gelpi.
Oui, une rencontre a eu lieu lundi à Londres entre Olivier Létang, le directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain, et les dirigeants de Manchester United. Les deux clubs n'ont pas encore trouvé d'accord, mais ils s'en rapprochent. Pour l'instant, le joueur est en vacances après sa participation à la Copa América, mais Laurent Blanc voudrait le récupérer dès la fin du mois pour la fin de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Dans l'idée, le club et le joueur sont d'accord. L'ailier argentin de 27 ans veut rejoindre la capitale française. Reste à finaliser le dossier. Paris propose un contrat de 4 ans avec un salaire estimé à 10 millions d'euros nets par an. L'ancien joueur du Real demanderait 12,5 millions. Autre donnée, elle se trouve du côté de Manchester. Louis van Gaal voudrait disposer du remplacement de Di Maria le plus rapidement possible et le club anglais est en négociation intensive avec le Barcelonais Pedro.
Merci Camille. Une confirmation, aucun match de foot ne se jouera les 5 mai en France quand ce sera un samedi en hommage au 5 mai 1992, date de la catastrophe de Furiani qui avait fait 18 morts. La condamnation est tombée de 3 à 5 ans d'interdiction de stade au Royaume-Uni et à l'étranger pour les 5 supporters de Chelsea qui avaient empêché un homme noir de monter dans le métro parisien et avaient proféré en février dernier des chants racistes avant le match PSG-Chelsea de Ligue des Champions.
RMC France Olympique.
L'équipe de France de basket au boulot en mode préparation pour l'Euro du mois de septembre. Premier entraînement aujourd'hui à l'INSEP pour les 16 joueurs sélectionnés avec deux particularités. Déjà l'Euro est en France et les Français sont tenants du titre et ça va compter d'après le sélectionneur Vincent Collet.
On sent déjà une mobilisation, un focus plus important que les années précédentes. Je crois que les attentes pour les joueurs comme pour le public sont plus importantes et ça joue un rôle sur effectivement l'attitude de tout le monde. On a une pancarte dans le dos, on est chez nous, donc les adversaires n'auront qu'une idée, c'est de nous faire la peau, l'Espagne en tête. Et à partir de là, il faudra qu'on soit prêt à répondre à ce nouveau défi. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence et il faudra la gérer du mieux qu'on pourra.
Vincent Collet avec Vincent Delzesco et cette aventure, on la suivra sur RMC Radio officielle de l'Eurobasket. Il est 19h11 sur RMC et l'Intégral Tour est à Pralou avec Christophe Cessieux et toute la Dream Team.
Exactement, ils sont là, bien en forme pour débriefer cette 17e étape du Tour de France, remportée donc par un Allemand. 5e victoire d'étape pour les Allemands ici sur la route du Tour de France. On va en parler avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon que je salue. Comment ça va, messieurs?
Ça va très bien, Christophe. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir Thierry, depuis hier, ça va?
Ça va, et vous?
Bah oui, ça va pas mal. Même si la pluie,
mais c'est pas plus mal. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir un peu de
pluie. La pluie a fait sa réapparition avec un gros orage à Tonne en ce moment au-dessus de nous. Victoire donc de Simon Geschke, allemand de la formation Giant Alpecin. Il a bien joué le coup, cet allemand, lorsqu'il s'est échappé du groupe qui avait pris beaucoup d'avance en tête de peloton, 28 hommes au départ. Et Geschke, a faussé compagnie à ses 27 anciens compagnons dans la montée du col d'Alos. Personne n'a voulu réagir dans un premier temps et lorsqu'ils ont voulu réagir, l'Allemand était déjà loin. Celui-ci a parfaitement assuré dans la descente du col d'Alos et ensuite dans la montée vers Pralou. Il faut dire qu'il s'est passé des choses à l'arrière car on a bien cru aujourd'hui que Thibaut Pinot allait enfin avoir le sourire à l'arrivée d'une étape du Tour de France 2015. Thibaut Pinot, Cyril, qui a loupé le coche, faut bien le dire, avec une nouvelle fois l'une de ses faiblesses, à savoir les descentes de col. Une petite chute anodine, puisqu'il ne s'est pas fait mal, il a pu remonter sur son vélo, mais ça lui a ensuite complètement coupé les jambes. Mais en plus, a priori, son vélo était abîmé, son guidon quelque peu déplacé. Thibaut Pinot a perdu beaucoup de temps dans la descente et n'a jamais réussi à combler dans la montée vers Pralou. C'est une déception, faut bien le dire aujourd'hui, parce qu'on a rêvé l'espace de quelques minutes.
Oui, on a rêvé. Je suis pas de bonne humeur ce soir parce que j'aurais bien aimé une victoire française et celle de Thibaut Pinot qui a le mérite de cette refait depuis ces grosses défaillances sur la traversée des Pyrénées, sur la première étape surtout des Pyrénées. Donc il a retrouvé l'envie, il a retrouvé les jambes, mais ce qui est plus important c'est qu'il a retrouvé l'envie et aujourd'hui il avait envie de gagner, il était devenu un gagneur, un vrai coursier aujourd'hui. Il était magnifique dans la montée d'Alos, beaucoup de pédales, belle fréquence de pédalage dans son style qu'on lui connaît. Et là, c'est vrai, on y a cru, mais on rêvait pas, on était dans la réalité. Et au sommet, il passe à 55 ou 57 secondes,
je crois.
57 secondes, malheureusement, au bout de quelques lacets. Et moi j'ai toujours pas expliqué, sauf éventuellement la pédale qui touche, parce que tous les virages sont bien calés, il est sur les bonnes trajectoires, il prend les bonnes angulations, le regard est bien porté vers l'avant. Et puis là, dans ce virage, d'un seul coup, il décroche de l'arrière.
Sixième virage,
J'ai pas vu de pédale qui touchait, Cyril, moi.
Il décroche au moment où il a fait une reprise de pédalage. Et donc, est-ce que la pédale touche au moment où il passe en bas, ou frôle seulement? La seule chose, c'est qu'il décroche de la roue arrière, il part sans gravité, c'est vrai. Il perd exactement 10 secondes, d'ailleurs, sur la chute, parce qu'il était à 58 secondes, il était à 1 minute 08 à ce moment-là, et quand il repart, il revient en vitesse, il était à 1:18, donc pas beaucoup de temps perdu. Il a bien réagi, ce qui prouve qu'il était véritablement en mode guerrier. Et puis la chute après a eu quelques conséquences, ouais, qui font qu'il a été rejoint par Rigoberto Urán, par Talansky. Tous ces coureurs l'ont passé, j'ai envie de dire, parce que c'est une expression du milieu, il s'est fait enrhumer. Et puis il a attaqué un petit peu trop loin.
Il a présumé de ses forces un peu dans la montée vers Pralou. Et ensuite, il a pas mis la flèche, mais en tous les cas, il n'a pas réussi à reprendre le temps à Simon Geschke. Thierry, alors, déçu ou ravi de la prestation de Thibaut Pinot, dans quel sens ton cœur balance ce soir?
Dans un premier temps, ravi de voir que Thibaut était au summum de sa forme, parce que là franchement il a fait une montée extraordinaire du col d'Alos. Et puis derrière, après la chute, eh ben oui, ce qui explique que, bon, après une chute, on n'est jamais rassuré. Donc forcément...
Oui, surtout Thibaut qui, on le sait, n'a jamais été un formidable descendeur. Hein,
et
même
oui,
s'il a fait des progrès.
Il angoisse déjà un peu en descente, même s'il a fait d'énormes progrès. On l'a vu au début de sa descente. Il l'a bien abordé, bien, impeccable. Le grand virage avec du super goudron, c'est là qu'il tombe. Et c'est là que ça fait rager. Parce que il y a des virages qui, par exemple, où Contador est tombé, c'était bosselé, c'était petit trou de pourri. Ceci explique cela. Mais là-haut, ben oui, la roue arrière qui décroche. Et on, comme dit Cyril, on ne sait pas si c'est la pédale qui touche avant ou après. Mais bon, il y a une gamelle. Et puis, problème de matériel après. C'est ce qui explique vraiment la galère de la fin de descente, parce que là franchement il a perdu énormément de temps, c'est franchement dommage, il aurait pu minimiser et espérer gagner l'étape encore.
Ouais, Luc, t'es pas convaincu toi par le problème matériel de Thibaut dans la fin de la descente après sa chute, tu n'as pas vraiment vu que le guidon était déplacé peut-être de quelques centimètres, mais ça suffit hein.
A priori par rapport à ce que l'on a pu voir aux images là sur les écrans, il était quand même assez droit sur son vélo. Je pense que ce qui lui a manqué c'est de l'énergie qu'il a donné déjà après la chute pour essayer de limiter la casse sur l'écart sur Grischke, et puis après la montée dès le pied de Pralou. Et je pense que les efforts qu'il a fait dans la descente après sa chute, plus le début de la montée de Pralou, je crois que ça fait un petit peu beaucoup. Et là, il a même peut-être chopé une mini fringale, mais je crois pas, parce qu'il a quand même bien fini l'ascension.
Non, il termine à 1:36. Voilà. Donc, mais finalement, il n'y a pas un gros débat. Il est arrivé au pied de la descente avec combien de retard?
50,
à peu près
1:55. Oui.
Ouais, donc bon, il reprend pas grand-chose quand même. Très rapidement dans un premier temps,
après,
et ensuite il plafonne.
Il se relève sur
il comprend que de toute façon, il n'a
pas pu revenir sur Talensky déjà.
On va l'écouter, Thibaut Pinot, forcément déçu à l'issue de cette étape qu'il termine donc à la quatrième place à 1:36 du vainqueur Geschke. On l'écoute.
Ça veut pas. Voilà, je tombe dans la descente. Après, je suis bloqué. Je sais pas pourquoi je tombe. Et puis voilà, la descente catastrophique après. Voilà, c'est comme ça. Cette année, ça veut pas. Je retenterai demain. Il faut faire avec. C'est le sport. C'est ce qui fait la beauté du sport. Voilà, c'est dommage, c'est comme ça, j'avais les bonnes jambes pour gagner. Demain, voilà, je vais rattaquer, voilà, ça passera. Je vais pas avoir de regrets à Paris, donc là je donne le maximum, mais pour l'instant voilà, ça marche pas, mais ça va, j'espère que ça va marcher d'ici la fin de la semaine.
Voilà, il n'a pas perdu espoir, Thibaut Pinot. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, messieurs. On a écouté Marc Madiot il y a quelques instants dans le journal des sports, qui lui aussi semblait ravi. En tous les cas, c'est ce qu'il disait tout à l'heure au micro. Content de voir que Thibaut a retrouvé la grinta, retrouvé la bonne jambe. Et on se dit que bon, il y a encore de l'espoir. Hein. Tout n'est pas perdu pour Thibaut Pinot. Il y a 3 étapes de montagne, peut-être pas demain parce qu'il va quand même se ressentir les efforts d'aujourd'hui. Mais après-demain, la montée de la Toussure, dont il a le record, je crois. Il détient le record de la montée de la Toussure.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que je signalais tout à l'heure. Vous tombez, vous regardez pas si vous avez mal au genou, si vous avez le maillot qui est décidé. Vous vous relevez le plus vite possible, vous ressautez sur le... Ça, c'est un signe. C'est un signe que vous êtes dedans.
Et
moi, ce que je retiendrai de cette étape, bon, la défaite bien sûr, mais bon, on va, comme dirait l'autre, on va pas y passer 6 mois. Mais c'est qu'il est repassé en mode guerrier, en mode gagneur. Et dans son discours, il se pose pas de questions. Demain, il va retenter. De toute façon, il en reste 3. Après, il pourra partir 6 mois en vacances. Donc, ces 3 étapes, il va les faire à bloc. Mais il est dans le bon timing.
On l'espère,
parce que franchement, il tourne autour.
Il
y a eu cette 3e place à Mende l'autre jour. Aujourd'hui, cette 4e place, il a retrouvé.
S'il avait eu la même niaque
dans la montée de
Mende. Je pense qu'il n'avait pas encore retrouvé totalement les jambes. Mais il sera allé le chercher, hein, le Kuming. Hein.
Ouais. Oui, il l'aurait au sommet de la bosse, il aurait giclé tout de suite en arrivant sur Bardet.
Mais il n'avait peut-être pas encore les jambes.
Il monte en pression. Donc ça peut que nous donner de l'espoir pour les 3 prochains jours.
On accueille Manu au 32-16 qui voulait intervenir dans notre débat. Bonsoir Manu.
Messieurs, bonsoir à Dream Team RMC, bonsoir aux auditeurs.
Salut Manu.
Bon, mais Pinot, voilà, il fait plaisir. On ne peut pas dire qu'il ne fasse pas plaisir. C'est un garçon extrêmement volontaire. J'ai été fortement déçu par lui lors de la première semaine. Et j'ai été déçu de sa tactique. Cyril Guimard pourra le confirmer. Lorsqu'on est un leader du tour, on est dans les 25 premiers du peloton. Toujours. C'est dur, il faut frotter, mais on doit être dans les 25 premiers. Les cassures, les bordures, c'est sa faute. C'était tactiquement, il n'était pas bien à sa place. Là, par contre, c'est un garçon qui était au fond du trou il y a 5-6 jours. Et là, il est toujours à l'avant. Donc là, il a joué de malchance en descente. On sait que c'est pas son fort, la descente. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, ça a pas joué. Mais c'est un garçon qui a, à mon avis, un mental qui a progressé. Parce que il est à l'avant, il est volontaire, il lâche rien. Donc je pense que c'est pour les téléspectateurs et les auditeurs, c'est un avantage d'avoir un garçon comme ça à l'avant.
Ouais, c'est un avantage d'avoir un garçon comme ça. Alors tu disais leader, Manu. Est-ce que c'est vraiment un leader ou est-ce que c'est pas un franc-tireur, Cyril? Parce que depuis que on l'a déchargé de la responsabilité du leadership de l'équipe, parce qu'il est évidemment très loin en général, on sent qu'il retrouve les jambes aussi. Alors il n'y a pas que ça, mais est-ce que la pression du leadership est pas un peu trop forte pour lui?
On peut se poser la question, car lorsqu'il est en position de leader, ça marche pas comme on le souhaiterait, enfin, ou comme il le souhaiterait lui. Et effectivement, lorsqu'on n'attend pas trop de lui, seulement qu'il soit présent, il semble plus libéré, comme il l'est actuellement. Et comme il le dit après l'arrivée, on l'a entendu tout à l'heure, bon, ben, ça l'a pas fait aujourd'hui, ça le fera demain et je recommencerai demain. Donc là, si ça réussit pas, il n'a pas de responsabilité. Il a fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Malheureusement, il y a ce petit coup du sort. Mais il n'est plus sous pression. Et on a plus ou moins le sentiment, personnellement moi, mais on n'est pas les seuls, que il serait mieux effectivement en position de franc tireur sur lequel on n'attend rien au classement général. Si le classement général vient, eh bien c'est du plus. Ça a été le cas l'an dernier. C'est du plus. Et puis après, au contraire, j'ai plutôt l'impression que la machine fonctionne bien. Le mental est parti parce que il est au-delà de ce qu'il espérait. Or cette année, il était en deçà de ce qu'il espérait. Sauf que maintenant, il est libéré.
Ouais, voilà, Thibaut. Que ce soit une la pression qu'il l'ait mangé plutôt, parce que l'an dernier, il avait la même pression quand il se plaçait au général. Donc la pression, il a su la maîtriser.
Ouais, non. Mais l'an dernier, il est sur le podium. Mais l'année d'avant, il était rentré.
Il avait pas la jambe, surtout cette année. On l'a vu.
Bon, comment tu dis qu'il avait pas la jambe? Regarde le prologue
contre la montre. Il est devant tous les leaders.
Mais ouais,
c'est la première fois qu'il fait un prologue comme ça. Donc il a la jambe.
Ouais, et puis après, il l'a plus.
Mais
le mental, c'est pas tout. Tu l'as dit toi-même. Amande, il n'avait pas retrouvé encore le coup de pédale. Donc c'est bien qu'il y a un moment, et il l'a dit lui-même, la chaleur, il l'aime pas, il s'est enfoncé dans la chaleur. Et à partir de là, ceci explique peut-être cela.
Oui, mais enfin, c'est plus la première étape à Zeeland qu'il l'a. C'est plus
Zeeland
où il a perdu toutes ses.
Oui.
Il a pris un coup. Après, effectivement, il y a la chute de William. Et puis là, il a dû se dire bon, attends, ça va pas, il n'y a plus rien qu'il fait, la roue tourne pas dans le bon sens. Il a gambergé, et puis il a perdu sa foi, sa conviction, son besoin d'eux. Et une fois qu'il a été déchargé de tout et qu'il s'est retrouvé loin, eh bien, comme par hasard, progressivement, il est reparti. Donc, on est bien dans un problème de démotivation, un problème de crise, comme on l'appelle, on dirait en Italie, il est une crise. Il est plus dans cela que dans un problème purement physique. Enfin, on se refait pas sur le tour physique.
C'est bizarre quand même qu'après le premier chrono, il se soit complètement effondré, alors qu'il avait tous les atouts.
Il s'effondre dans les bordures et sous la flotte.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, c'est pas le petit. Même s'il a eu un petit pépin le deuxième ou troisième jour, vu ce qu'il a fait au chrono, il était en condition quand même au départ. Tu peux pas faire 17e d'un chrono de 13 bornes pratiquement. Comme ça, 17e sur le Tour de France avec tous les meilleurs.
Et il prend un coup de buis
après, même si t'as eu un pépin de bordure et tout ça.
La deuxième étape, il prend le gros coup de buis et le mental, oui, là, le mental, il reçoit.
Bah, oui,
et puis
bon.
la chute de William Bonnet juste devant lui.
Et puis les pavés derrière.
Enfin bref, ça a été une première partie de tour catastrophique et cauchemardesque pour Thibaut Pinot. Mais là, on est ravis qu'il retrouve des couleurs depuis quelques jours et il lui reste encore de belles chances pour aller décrocher une victoire d'étape au classement général. général, il est évidemment très loin, même s'il se rapproche grâce à sa belle place aujourd'hui. Il est désormais 17e ouais. au classement général à quasiment une demi-heure tout de même de Chris Froome. 26 minutes ouais, 14.
Ça, on s'en fiche.
Oui, oui, on s'en fiche. Non, non, mais c'est parce qu'il il revient dans les classements, si tu veux.
Oui, bien, mais bon, il est obligé de revenir dans les classements s'il est en meilleure condition que les 15 premiers jours.
Très bien. On va donc s'intéresser dans quelques minutes aux autres Français parce qu'il y a Thibaut et les autres. Hein. Les autres, c'est moyen, très moyen, moyennasse. C'est même la Bérésina pour les Français. On en parle dans un instant. Même si Warren Barguil a réussi à conserver sa place dans le top 10, mais il est désormais à 13 minutes de Chris Froome. On en parle dans un instant. C'est la suite de l'intégral tour. Toujours en direct de Pralou où il tombe des hallebardes là, sur la ligne d'arrivée.
Le feu d'artifice ce soir, c'est mort.
À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Pralou ce soir avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon au terme de la 17e étape du Tour de France. Première étape dans les Alpes, remportée donc, on vous le rappelle, par Simon Geschke, l'allemand de la formation Giant Alpecin. Andrew Talansky, l'américain de Cannondale, termine à 32 secondes. Rigoberto Urán, le colombien, est à 1.01. Thibaut Pinot, premier français, à 1.36. Et puis un peu plus loin, beaucoup plus loin même, le groupe Maillot Jaune qui est arrivé avec un retard d'un peu plus de 7 minutes. C'est Quintana qui a terminé premier de ce groupe maillot jaune, juste devant un certain Chris Froome qui ne lâche rien. On en parlera dans quelques instants. Valverde est un petit peu plus loin à 7.23. Et puis on rappelle les éléments importants du jour, à savoir la chute d'Alberto Contador qui du coup concède un peu plus de 2 minutes à Froome et Quintana, 31e de l'étape à 9.33. Et puis également l'abandon de TJ Van Garderen qui était troisième ce matin au général et qui donc quitte le Tour de France. Le classement général donc dominé par Christopher Froome avec 3 minutes 10 désormais d'avance sur Nairo Quintana, et le nouveau troisième, celui qui monte sur le podium ce soir, c'est Valverde à 4.09, Geraint Thomas, le coéquipier de Froome, est quatrième à 6.34, Contador cinquième à 6.40, le premier français, c'est toujours Warren Barguil, dixième au général à 13 minutes 08. Barguil qui parvient à s'accrocher, Luc, qui parvient à s'accrocher. Mais voilà, on sent qu'il est à la limite quand même. Hein.
Mais c'est pas décevant de la part de Barguil, parce que c'est son premier Tour de France, et là il est en train de prendre de l'expérience, de la maturité, et tu verras que l'année prochaine, dans son deuxième Tour de France, il sera beaucoup plus performant et beaucoup plus apte à prendre, je dirais, les roues des grands leaders, et pourquoi pas faire un top 5. Tu sais, là il est c'est comme tous ceux qui commencent un petit peu le Tour, hein, ils découvrent, et c'est vrai que le Tour c'est pas facile. Dès les premiers jours, c'est pas la même pression que dans les autres grands tours, donc là il va avoir un bagage assez important pour l'année prochaine.
Alors messieurs, on va noter les Français ce soir, une note de 1 à 20. On va commencer par Warren Barguil, on a entendu l'analyse de Luc. Professeur Guimard, Druide Guimard, quelle note vous donneriez à Warren Barguil sur l'ensemble de ce Tour de France jusqu'à présent?
Sur l'ensemble du Tour de France, on peut lui donner au minimum 9 sur 10, au minimum, compte tenu de 9 sur 10,
c'est bien. Non, mais c'est sur 20.
Gagne, donc, ah, sur 20 ah, bah, non, mais excusez-moi, j'ai l'oreille droite paresseuse et l'autre qui veut pas bosser. on va lui donner 18 sur 20. N'oublions pas qu'il a eu une chute qui l'a quand même beaucoup handicapé pendant plusieurs étapes. Oui, mais je te dis, il y a la note 18.
Top 10 pour son premier tour, ça vaut quasiment.
C'est pas encore fait, parce qu'aujourd'hui là, il a perdu 2 minutes sur le groupe de Froome Quintana. Ouais. Bon, dixième. Bon, je pense que ça peut le faire. Bon, j'espère que ça pourra le faire, mais bon, c'est quand même 3 étapes difficiles. Faut pas non plus avoir un jour sans. Espérons que c'était aujourd'hui son jour sans. Mm-hmm. Bon, il est dixième, mais onzième c'est Bardet, et Bardet est à 3 minutes derrière lui. Bardet qui aujourd'hui a peiné quand même.
Ouais, Bardet, oui, Talansky, Sanchez et Pierre Roland qui arrivent derrière. La note de Thierry pour Warren Barguil.
Barguil
18 toi aussi?
Non, 15, 16, 5.
15, 16.
Oui, je suis sévère. Non, mais après, attends, qu'est-ce que tu vas mettre quand il va gagner une étape? S'il gagne une étape. Le gars qui gagne une étape, le gars qui fait 5e au général, il y a une progression. C'est un super tour. Et 15 sur 20, c'est pas une super note non plus.
Non. Ah bon attends. Bardet était sixième du tour l'an dernier.
Oui.
S'il gagne une étape, c'est au minimum bien.
Ouais. Oui. Alors donc non messieurs, allez, on donne des notes, je veux pas
Mais 17 c'est bien. 18 c'est un petit peu trop Cyril.
17 18 c'est pas mal, et 15 pour Thierry. Romain Bardet, deuxième au général, 11e place à 16 minutes 04, il a concédé beaucoup de temps aujourd'hui. La note Cyril, je veux une note, je ne veux pas des appréciations s'il vous plaît.
Eh bien moi je vais lui mettre 13.
Tu vas lui mettre 13. Romain Bardet 6e l'an dernier, cette année il est un peu plus loin. Lucho, la note pour Romain Bardet.
Je lui mets 12.
Tu lui mets 12. Thierry, tu lui mets combien?
Je lui mets 12.
Tu lui mets 12, vous lui mettez la moyenne quand même.
Oui, on l'écoute, je suis Romain persuadé Bardet.
Je ne veux pas de commentaire. Je veux écouter Romain Bardet maintenant. On l'écoute.
Je ne sais pas noter sans mettre un petit commentaire.
Tais-toi. Bouclez-la, comme dirait Luc Leblanc.
Pas du tout dans le match, pas du tout content de mes jambes. Alors rien à voir avec 48 heures. J'ai toujours du mal à gérer le lendemain de journée de repos. Aujourd'hui, j'ai eu qu'une journée difficile encore.
Voilà, Romain Bardet, la petite voix pas au top aujourd'hui. Romain Bardet, dont on nous dit qu'il a été victime d'une fringale, c'est l'explication. Vous y croyez pas. Cyril n'y croit pas du tout. Le geste qu'il fait qu'il n'y croit pas du tout. Je ne peux pas vous dire le geste.
On va pas dire le geste qu'il a fait.
Non.
Non, mais ils parlent de fringale tous quand ils sont un peu moins bien. Mais un coup de fringale, c'est un vrai coup de fringale. Et le mec, il prend pas 10 minutes dans l'aquéron. Il prend minimum 20.
Un vrai coup de fringale, tu te mets à 2 à l'heure.
Ah ben là, t'as 20 minutes, hein. Un vrai coup de fringale comme aujourd'hui, Cyril, t'es à 20 minutes.
Minimum.
Tu t'arrêtes manger au restaurant et tu repars.
Voilà. Et encore, il se refait pas la cerise.
Le temps de digérer en plus.
Très bien. Alors, on continue notre classement général pour les Français avec notamment Pierre Roland qui lui aussi a.
Pardon. Pinot, on l'a pas noté.
Pinot, il est plus loin en général.
Pierre Roland.
Pierre Roland. Thierry, allez, vas-y ta note. Pierre Roland qui a perdu du temps aujourd'hui un petit peu. Hein.
Ouais, je lui mets 9.
Tu lui mets 9, tu lui mets pas la moyenne, d'accord. Il est sévère, le professeur.
Oui, il a pris 2,40 aujourd'hui.
2,40 aujourd'hui.
Oui. Enfin, quelques secondes, Pierre Roland. Mais... Ouais.
Alors qu'on attendait beaucoup dans les Alpes, hein. C'est son massif préféré, il le disait encore hier. 2,40 pour une première étape, c'est moyen.
Je lui donne la moyenne, pas
tu
plus.
Lui donnes la moyenne, très bien. Donc 10 pour Pierre Roland et Lucho. Ah,
je vais me faire taper sur les doigts, je vais mettre 8.
Ah bon? Pourquoi 8?
Quand tu mets une mauvaise note,
t'expliques.
Non, mais oui, mais tout le monde a donné des mauvaises notes. Alors, Cyril,
non, mais
j'explique.
Bah, mais on a dit qu'on n'expliquait pas, on donnait des notes.
C'est le leader de Robcar. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le départ, il a rien prouvé pour l'instant sur le Tour de France. Pierre Roland, il est dans le groupe maillot jaune où il est dans une échappée, mais il se fait lâcher. Il a pas la niaque sur le Tour cette année pour pouvoir faire la différence et mettre un petit coup de flingue même dans une échappée devant avec ceux qui ne sont pas les leaders. Donc voilà.
Ok, Tony Galopin, désormais 16e du Tour de France. Hein, chaque jour là depuis quelques jours, il prend quelques secondes. En moins et il perd des places au général, 16e à 20 minutes. Cyril, il avait une très bonne note à l'issue de la première semaine.
7 minutes à peu près aujourd'hui.
Ouais, 7 minutes.
7 minutes, je pars toujours sur les favoris, bien sûr. Hein. Moi, je trouve qu'il a fait un très beau tour jusqu'à maintenant. Il s'est mis en sur-régime sur la traversée des Pyrénées. Moi, je vais lui mettre 15.
Mmh. 15, d'accord. Alors qu'il est moins bien classé que Pierre Roland, mais c'est pas pareil pour le classement général au départ.
Pas pareil.
Voilà. Lucho?
Moi, je lui mets 16. Ouf. Je lui mets 16 parce que c'est un super coursier. Voilà, il s'est mis comme Cyril l'a dit, peut-être en sur-régime en début de tour jusqu'à il y a 3-4 jours. Mais bon, il est là et on s'attendait à ce qu'il ne passe pas non plus une série de cols. Mais bon, il est là. Je veux dire, il est là. Il est pour moi, il a fait un beau tour. Et,
d'accord. C'est votre chouchou, on a bien compris. Ouais. Thierry, est-ce que
12,
tu
12.
Ah voilà, toi t'as
12, alors, toi. Non, mais non. Attends, si tu ou alors t'as une note pour la première semaine, une note pour la deuxième, une note pour la troisième.
Mais c'est une note globale.
On note sur l'ensemble du tour.
Il y a trois trimestres, tu sais, enfin.
Aujourd'hui, si tu m'avais demandé la note il y a une semaine, c'était pas la même. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, il a fait un super tour, d'accord. On savait qu'il était un peu juste dans les grands cols. Il s'est vraiment accroché, superbement accroché dans les Pyrénées. Et là, il paye peut-être l'addition sur le régime qu'il a fait dans les Pyrénées.
J'ai oublié de vous faire écouter Pierre Roland qu'on a rencontré tout à l'heure à l'issue. On l'écoute. Pierre Roland, leader de la formation Europcar, qui a donc perdu un peu de temps aujourd'hui. Il est, je vous le disais, 14e général. Pierre Roland.
Non, bah, j'ai essayé de me placer au mieux avant les pentes les plus difficiles d'Alos. C'est monté hyper vite, quoi. C'est monté hyper vite, c'était une journée un peu folle. J'ai essayé de me glisser dans le groupe de 25, mais bon, sans succès. J'ai essayé de relancer avec mon équipier, mais j'ai pas eu le bon de sortie. Dans Alos, j'ai explosé, je suis tombé sur Mollema qui était à mon niveau, Romain Bardet qui était derrière moi, qui m'a rattrapé dans la descente. J'ai fait toute la descente avec lui. C'était une journée encore bien difficile et comme je le pressentais, les grands champions comme Nibali ont pas dit leur dernier mot.
Voilà, Pierre Roland, donc à l'issue de cette étape. On va terminer avec Thibaut Pinot, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Donc la note de Thibaut Pinot, vous ne l'avez pas encore donnée, messieurs. Sans commentaire, s'il vous plaît, juste une note sèche, comme ça.
13.
12. La moyenne.
La 12. Moyenne. D'accord. Tout juste la moyenne.
Oui, 10, oui.
Ok, bah voilà pour les Français. Vous espérez sur lequel vous comptez le plus d'ici l'arrivée sur les Champs-Élysées, Thibaut Pinot ou un autre
Pour une victoire d'étape.
Ouais. Pour le général, oui. Peut-être.
Pour moi, il y a Thibaut Pinot qui semble être dans la bonne dynamique.
Très bien.
Oui, aussi. Par rapport Pinot. À ce qu'il a démontré aujourd'hui.
Bardet,
oui.
Tu y crois encore,
oui,
Thierry?
Oui, je pense que c'est
il y a des hauts et des bas pour Romain Bardet. Hein, ouais. Il a du mal. Ouais, les
je pense qu'il va se remettre pour demain.
On verra cela. Voilà donc pour.
On le verra.
Voilà donc pour les Français, on va s'intéresser maintenant au classement général, messieurs, avec Chris Froome, à nouveau impérial aujourd'hui, il a répondu à toutes les attaques, et il a vraiment le maillot jaune solidement installé sur les épaules. Alors, est-ce que Quintana va parvenir à lui reprendre ne serait-ce qu'une seconde avant l'arrivée sur les Champs-Élysées? Est-ce que vous y croyez?
Ne me parle pas de Movistar, hein. Parce qu'ils ont joué comme des cons, et franchement c'est le terme là. Et non mais vraiment, qu'est-ce qu'ils sont allés courir après Contador? Mais là, faut qu'on m'explique. Les mecs, ils peuvent c'est le mettre en difficulté. Hispanique. Non, mais c'est la guerre espagnole. Et ben voilà. Et on revient dans les dérives du nationalisme et de la bêtise de garder sa place.
Bah, il y a une place au général quand même.
Mais oui,
il y avait une place sur le podium.
Et alors, s'ils veulent garder et espérer gagner ce Tour de France, faut essayer
mais
de faire bosser Froome. Mais non, ils ont fait monter la dernière montée. Ils l'ont fait monter à 3 à bloc. Et puis pour faire quoi? Pour voir un démarrage de et prendre 50 mètres, même pas 20 mètres. Allez, Quintana. Alors, le super grimpeur aujourd'hui sur Froome, ça va être très difficile de larguer Froome. Et aujourd'hui, en plus, ils le mettent dans les super conditions parce qu'ils roulent pour lui. Ils vont chercher les adversaires directs. Ah, c'est n'importe quoi. Ils ont toujours couru à l'envers les Movistar. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer.
Voilà. Ouais, ça a toujours été. Il a raison, Thierry. Il a raison, les Movistar, ils courent à l'envers. Au lieu d'essayer de préparer les attaques de Quintana sur Froome et d'essayer de faire une décision et de au moins de reprendre du temps et de pas faire semblant, c'est dommage de réagir comme ça en course, quoi.
Et
de courir pour la troisième et quatrième place et de protéger la place de Valverde, quoi.
Et la dernière montée sur Pralou, ils ont roulé, mais ils ont roulé pour le podium. Pour écarter Contador définitivement.
Ça sera comme ça jusqu'à samedi, Thierry.
Ben oui, mais c'est dommage, voilà. Ouais. On aurait. Voilà,
on a l'impression que dans le Tour de France, le classement pour la victoire, pour la victoire finale se déroule dans le premier massif. Et une fois que les positions sont établies, une fois que le vainqueur est quasiment désigné, on cherche vraiment à garder ses places, mais on attaque plus le maillot jaune. Mais bon, c'est vrai qu'il est tellement supérieur aux autres, Cyril, que on voit pas ce qu'il peut faire. Quintana a bien tenté quand même aussi dans la montée vers Palou.
Oui,
même si moi,
je tiens à féliciter Thierry de son analyse qui me paraît très pertinente.
D'accord. Merci, parce que de ta part, ça me fait énormément plaisir, mon cher directeur.
Il distribue les accessites ce soir et les notes. Donc, tu lui mets combien, Thierry, sur ce coup-là?
Sur l'analyse, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je vois pas pourquoi. C'est un équipier de Valverde qui roule dans un premier temps pour aller chercher Contador. Mais ça fait partie des choses logiques. Ils veulent le podium.
Mais voilà.
Bon, il roule après parce qu'il faut prendre un maximum de temps à Contador pour l'éliminer du podium. Il est donc éliminé du podium. Il doit y avoir quand même de vieux règlements de compte. Il doit y avoir quelques cadavres dans les placards entre
Contador et Valverde.
Entre Contador, Valverde, les Movistar et
Cyril. De toute façon, Valverde, il a toujours couru comme un naze. Et au championnat du monde, il a fait perdre l'Espagne. Rappelle-toi,
il a
roulé sur Pruito. Ouais.
Il a surtout laissé partir Rui Costa.
Mais voilà, mais c'est mieux qu'un Portugais gagne qu'un Espagnol. Voilà.
Bon, alors Quintana, pour en revenir à mes questions concernant Quintana, parce que vous n'avez pas envie de répondre sur Quintana.
Oui, Quintana.
Lucho, allez, Quintana. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir lui prendre quelques secondes?
Mais quand tu regardes
sous la barre des 3 minutes à l'arrivée à Paris.
Mais quand tu regardes les attaques téléphonées de Quintana aujourd'hui, tu te demandes comment il va reprendre du temps sur Froome. Voilà. Et pourtant, c'était mon favori.
Il vous déçoit, Quintana, des attaques téléphonées de France. Il vous déçoit, Quintana, sur le Tour de France.
Il manque de giclettes.
Pour un pur grimpeur, et comme tu disais au début du tour, pour le meilleur grimpeur du monde, les fractionnés, il n'en a pas fait beaucoup.
Il faut savoir comment les courses se passent en Colombie. Il y a des cols de 40 km. Tu les prends au pied, tu te mets à ton rythme et tu fais sauter. Je connais bien parce que je suis allé plusieurs années faire le classico RCN.
Le Mexique aussi.
Avec Lémon, avec Motet, avec Maillot.
40 km
avec
de col.
Des cols, ils font 40
des km. Des fois, tu commences au début des étapes, c'est à 2000 mètres.
Mais c'est pas un démoreur, ça ne l'a jamais été. Alors déjà, il a des fréquences de pédalage qui sont relativement basses et ça n'aide pas à démarrer. Mais en plus, quand vous mettez Froome à côté, ça fait une différence énorme. Non, Quintana, il n'est pas décevant. C'est l'autre qui est trop fort, c'est tout. L'autre, il se promène. Bon, il promène son vélo.
C'est dommage qu'il soit là, à la limite.
Il est fort.
On
verrait un super tour.
Il y a quand même une minute d'écart entre Quintana et Valverde. Tiens, on va écouter Nicolas Portal, le directeur sportif de la formation Sky. Qu'est-ce qu'il pense de la situation au soir de cette première étape des Alpes, Nicolas Portal?
Non, c'est intouchable, non, parce que franchement, en fait, prudent dans ce qu'on dit, mais Chris me disait je suis bien, donc il avait même envie peut-être de faire un peu plus la guerre, donc on lui a dit écoute, laisse faire le groupe, laisse faire notre groupe, tes équipés font un super boulot, dépense pas d'énergie pour rien, il y a l'Alpe d'Huez, il y a après-demain, et il y a demain aussi, donc si vraiment il est fort, il y a d'autres opportunités, plus longues, beaucoup plus dures, ou s'il veut prendre du temps, ou s'il y a une grosse guerre, il peut vraiment se lâcher, quoi.
Voilà, vous avez entendu ce qu'a dit Nicolas Portal, il avait les jambes aujourd'hui et il a fallu presque le freiner pour pas qu'il attaque et en mette encore une. C'est vrai que ça aurait fait jaser encore une fois.
Ils ont la bête.
Ils ont raison.
C'est-à-dire ?
Ils ont raison de pas le lâcher.
Et quand ils vont le lâcher, ça va faire mal.
Il a 3 minutes d'avance, plus 4. Bon, c'est pas nécessaire qu'il s'entame pour gagner 30 secondes. Et peut-être s'entamer pour les étapes à venir. Là, il a un capital temps d'avance, et puis il a un capital énergétique qui l'entame pas. Donc, vous savez, ça, je l'ai souvent fait, hein, de bloquer Fignon. Non, tu bouges pas. Oui, mais ça va. Non, tu bouges pas. D'ailleurs, il me l'a même reproché dans son bouquin. Sauf que moi, je voyais pas l'étape du jour, je voyais aussi l'étape du lendemain. Mais oui, quand vous dirigez un leader, il y a un moment, il faut savoir quel est l'objectif. L'objectif, c'est la ligne d'arrivée aux Champs-Élysées. Donc, de toute façon, on ne gaspille rien.
Très bien. Course gagnée, évidemment. Tour dans la poche. Il y a plus de suspense, là. Enfin, je veux dire,
je vais décevoir tout le monde, puis je vais peut-être me tromper. Mais sauf un jour 100, mais alors quand je dis 100, c'est avec 25 S derrière. Je vois pas comment on va lui reprendre 3 minutes, quoi.
Ouais.
Et je vois pas comment ils vont arriver à rester qu'à 3 minutes.
C'est-à-dire qu'il peut leur recoller encore une minute.
Non, il peut les faire manger. À l'Alpe d'Huez, il n'y a plus rien à risquer. Là, il peut les faire manger, oui.
Ouais, je pense que quand ils vont le lâcher, ils vont lâcher la bête. L'Alpe d'Huez, ça va être terrible.
6 minutes d'avance pour Froome à l'arrivée de l'Alpe d'Huez. Très bien, messieurs. Bon, ben
rien
voilà.
Hein,
on va pas faire durer un suspense qui n'existe plus.
Non, puis on n'est pas crédible.
Oui, exactement.
Parce qu'il y en a d'autres qui regardent la télévision, qui connaissent le vélo.
Oui,
on va quand même pas raconter des choses.
Non, ça n'arrive pas, le coup de fringale chez la Sky.
Ah,
ça
mais si,
pas.
Regarde dans l'Alpe d'Huez quand elle était descendue à la voiture chercher. Non, il avait envoyé Richie Porte chercher un casse-dalle.
Très bien, messieurs, dans un instant, on va évoquer l'étape de demain avec les lacets de Montvernier. Mais auparavant, on va accueillir Fabien qui est avec nous au 32-16. Fabien qui était tout à l'heure sur l'étape, puisque c'est lui qui a remporté le jeu Bosch et qui a donc pu suivre en VIP l'étape du jour. Bonsoir Fabien.
Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir.
Bon, comment ça s'est passé Fabien, cette journée en VIP, dans l'hélicoptère, avec les petits fours et tout? C'est bien le Tour de France comme ça, non?
Ah bah oui, ça change du canapé de la maison, oui. C'est sûr.
Ça donne envie de revenir, hein?
Ah, tout à fait, oui. L'année prochaine, j'aurai essayé. Bon, si j'y peux. Bon. Non, mais sinon, ça s'est bien, super bien passé. Ce matin, on est arrivé à Digne, donc au village de départ, bien accueilli. On a vu les paddocks, on a vu les coureurs en train de signer leur avant le départ. Hein.
Ouais, ouais. Bon, bah, très bien, tant mieux si vous vous êtes régalé aujourd'hui. Là, vous êtes en train de repartir, de rentrer à la maison?
Là, disons qu'on est en arrivée à Digne avec le car.
D'accord.
En fait, on vient de repartir du Pralou et là, on arrive bientôt à Digne.
Bon, il n'y a pas trop de monde dans la descente, rassurez-nous.
Non, là, ça va. Il y a moins de monde maintenant.
Très bien, merci Fabien, bravo donc pour avoir gagné ce jeu Bosch et donc d'avoir pu suivre l'étape du jour en VIP.
Une étape en VIP avec Bosch Car Service, partenaire technique du Tour de France.
Voilà, VIP aussi pour Cyril Guimard, pour Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Évidemment, nous sommes dans notre petit camion et nous allons redescendre tout à l'heure de Pralou. Mais avant cela, on va continuer d'évoquer la suite de ce Tour de France avec la 18e étape demain, l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne et les lacets de Montvernier. On va vous dire un peu de quoi ils retournent exactement. Ces lacets, ces 18 lacets, une sorte de mini Alpe d'Huez. On en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
La suite de l'Intégral Tour, toujours en compagnie de Luc Leblanc, de Cyril Guimard et Thierry Bourguignon. On va évoquer l'étape de demain, on va parier dans quelques instants. Donc demain, ça repart de Gap, mais il me semble qu'on était déjà arrivé à Gap il y a quelques jours, mais on repart de Gap demain, donc en direction de Saint-Jean-de-Maurienne. Ça monte et ça descend, mais bon, pas de grand col avant le col du Glandon quand même.
Ouais.
Mais ça va pas arrêter. Mais surtout, ça va débuter par le col Bayard à la sortie de Gap. Ça casse bien les jambes, hein, Lucho, ce genre de choses, hein.
Ah ben oui, surtout que ceux qui sont fatigués de la journée d'aujourd'hui, si s'échauffe un petit peu au départ, oui, si ça attaque d'entrée, ça risque de faire mal un petit peu, mais je pense que quand même ils sont quand même assez conscients que le tour n'est pas terminé, qu'il reste quand même de très très belles étapes et qu'ils ont envie de rentrer dans les délais. Je vois mal certains coureurs attaquer déjà d'entrée.
Oh,
enfin bon, ça serait suicidaire. Ah, mais ceci dit, il y en a bien un ou deux qui oui.
Ça va partir vite. Rappelle-toi, en 91, on partait, tu sais, que je me suis fait allumer, là. Parce que j'étais trop.
Ah oui, je me rappelle.
J'avais attaqué dans la côte du Moti.
Je me rappelle.
Et on s'était fait rattraper à 10 km de l'arrivée dans l'Alpe d'Huez. Et on avait fait tout le début jusqu'à la mur. C'était exactement la même étape et c'était parti sous plein pétrole. Parce que ça partira plein pétrole.
Ouais, mais l'Alaska, ils vont couper.
Oui, mais jusque le col Bayard à bloc, ils vont monter à bloc, quoi qu'il arrive. À moins que personne attaque ou que des seconds couteaux, mais ça m'étonnerait.
Très bien. Il y a ensuite une succession de difficultés. La rampe du Moti, la côte de la Mure, le col de Malissol, le col de la Morte et puis le col du Glandon. Ce sera le plat de résistance de la journée, 21 km à 5,1%. Et pour terminer, après la descente du col du Glandon, une nouveauté sur la route du Tour, les lacets de Montvernier. Georges Quirino nous a rejoint, c'est le spécialiste des lacets de Montvernier. 18 lacets.
Ouais.
Le
Bonjour.
Ministre... Bonsoir.
Bonsoir.
Un mini Alpe d'Huez, c'est vrai ça? Tu as reconnu l'étape?
Oui, je l'avais reconnu juste avant la présentation du parcours du Tour de France en octobre dernier. J'étais allé sur place avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et Thierry Gouvenot également, le directeur de course qui était là. On l'avait monté même à pied, cette ascension. C'est 18 lacets qui est un peu plus long que 3 km à 8% de pente moyenne. En fait, on la voit depuis l'autoroute, cette ascension. Vous passez juste à côté et vous voyez une falaise avec des lacets. Des lacets jusqu'en haut, comme ça, 18. Alors que Cyril Guimard me sert de technicien. Et la chaussée est très étroite, surtout. C'est ce qui nous avait choqué d'entrée de jeu, mais c'est vrai que il y aura pas de spectateurs demain, par exemple. La caravane ne passera pas parce que la chaussée est trop étroite et la chaussée n'a personne.
Uniquement pour la télé, en fait.
Exactement. C'est uniquement pour la télé. C'est sûr qu'en en plan d'hélicoptère, ce sera absolument spectaculaire à voir.
Mais il n'y aura pas de spectateurs dans la.
Non, il n'y aura pas de spectateurs pour pas gêner.
Pas le droit
la
de
course.
Monter voir les coureurs dans la montée.
Pour ne pas gêner la course.
Ni caravane, ni caravane, ni spectateurs, que des coureurs.
La moto RMC
pourra passer.
Ah, et par contre, pour nous, ce sera pas parfait. On pourra se positionner en haut du 18e lacet et vraiment quand vous êtes en haut du dernier lacet, vous pouvez pratiquement voir en dessous tous les lacets jusqu'en bas. Donc c'est vraiment magnifique.
Et tu seras seul en plus, il n'y aura aucun spectateur.
Oui,
quelques moutons ou quelques vaches peut-être qui regarderont passer là.
Quelques brebis.
Quelques brebis, pardon. On va l'écouter, Thierry Gouvenot.
Je sais pas pourquoi vient ce mythe des lacets, parce qu'en fin de compte, les lacets, ils sont là pour aplanir la difficulté, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à une Alpe d'Huez en mini, quoi, en Lego. On a longtemps cru que c'était un chemin de terre, parce que c'est vrai que du bord de l'autoroute, on s'aperçoit cette succession de lacets, puis on se dit, oh, c'est un chemin juste bon pour les brebis, etc. Et puis, il y a des gens de la vallée de Moriette qui nous ont proposé d'aller voir. On s'est rendu compte que c'était assez large pour faire passer une course. Bon, bien entendu, il y a des restrictions, parce que c'est pas non plus l'autoroute, mais c'est assez large pour faire passer la course. On l'a testé au Dauphiné, ça s'est passé sans encombre.
Voilà, il a fallu 6 ans de travaux entre 1928 et 1934 pour venir à bout de près de 400 mètres de dénivelé pour relier la vallée de l'Arc au village de Montvernier.
Mais il a vraiment raison, Thierry Gouvenou, ça ressemble vraiment à l'Alpe d'Huez en Lego. Voilà, en petit, Lego, on a l'impression qu'on a calé ça comme ça. Le sommet est à 10 km de l'arrivée, descend vers Saint-Jean-de-Maurienne derrière, pas très technique, assez roulante.
Très bien, merci Georges. On va parier tout de suite et accueillir Benoît Boutron.
Les paris RMC, Tour de France.
Alors, on a très peu de temps. Benoît, oui. Bonsoir. Les différentes cotes des différents favoris.
10 pour Ito Rodriguez, grand favori de l'étape de demain. Tony Galopin est deuxième avec une cote de 15. Les cotes qui devraient évoluer dans la nuit. Hein. Effectivement, c'est toujours ce qui se passe avec les bookmakers. Valverde, cote de 15 également. Bardet, premier français à 18. Moi, j'avais envie de tenter Pierre Roland. Je sais, il a souffert aujourd'hui, mais c'est un spécialiste des Alpes. Et il est coté à 28. Messieurs, ce sera mon pari. Pierre Roland, Benji est d'accord avec moi.
Pierre Roland, donc, pour Benoît Boutron. Cyril Guimard, en 10 secondes. Enfin, en 20 secondes. Déjà, il y a 10 secondes de réflexion.
Pierre Roland
aussi. Ah. Et tu suis Benoît.
Allez, c'est noté.
Très bien. Monsieur Leblanc.
Je suis toujours maillot jaune, Benoît.
Oui, maillot jaune, mais le maillot vert, c'est Thierry Bourguignon. Et le maillot à pois, c'est Virginie Fulpin. Ne l'oubliez
d'accord.
pas.
D'accord. Je vais mettre Bardet.
Romain Bardet.
Ah,
je voulais faire tout, moi.
Ah ben, vas-y, Thierry.
C'était mon petit poulain.
On donne tous des victoires françaises, quand même, messieurs. C'est une première depuis le début de ce tour, je crois.
C'est en juillet.
Ah non, pas pour moi.
Non, mais je veux dire qu'on soit tous d'accord sur la victoire d'un français.
Oui, tout à fait.
Ok.
Christophe, est-ce que tu joues
Moi, j'attends demain, parce que j'en ai marre. J'attends l'échappée pour voir ce qu'ils ont.
Il a combien d'un négatif?
Ça va.
Je vais monter dans la voiture, messieurs. Je vais essayer de rallier l'arrivée et sans me faire repérer par les commissaires.
La voiture,
Virginie, tu vas pas donner un français quand même, non?
Non, bien sûr que non. Je vais jouer Chris Froome. Ma tactique, c'est ça. Jusqu'à samedi, y compris, je joue Chris Froome et dimanche, je joue Cavendish. Voilà.
Voilà. Moi, je vais.
Et avec ça, je peux vous dire que je vais le garder jusque sur les Champs-Élysées. Mon maillot à pois.
À moins qu'il y en ait un qui
ah, à moins qui... que. Mais... Ah,
ouais. Mais bon, pour l'instant, ça n'ouvre pas le chemin.
Ouais.
On n'est pas très bon sur les pronos quand même. Mis à part lui qui en a donné un par hasard.
J'en ai gagné 3. Tu rigoles ou quoi, toi?
J'ai joué un gros coup, mais j'ai eu deux victoires avant mon gros coup.
Voilà. Combien?
Pas pour longtemps.
Plus de 100 euros, je crois.
Plus de 100 euros.
Plusieurs gros coups pour.
Plus de 100 euros.
Me dit Fred. Mais bon, je ne sais pas desquels il parle. Très bien, voilà, Lucho et Thierry vont rester avec Virginie.
Jusqu'à 20h30, évidemment.
Ils réalisent des gros coups en plus.
Avec vous au 32-16 et sur Twitter, évidemment, avec le hashtag RMC Live. À 20h30, Jean-Louis Triault, le président des Girondins de Bordeaux, sera notre invité. Puis à 20h45, ce sera Guy Cotteret, le président de l'AJ Auxerre, avant le comité exécutif de la Fédération française de football demain, qui pourrait définitivement voir une guerre Ligue 1-Ligue 2 apparaître. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.